le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
On fait tout cela parce qu'on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on nous laisse finalement mourir.
Il y a trop de gens autour de nous qui continuent à tout s'accaparer, donc on va laisser la place.
Son but, c'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, l'ensemble de l'émission Les paysans et les paysannes dans la lutte des classes est consacré à la lutte du peuple mapuche. C'est à l'occasion d'un voyage au Chili que ce documentaire a vu le jour, et plus précisément lors d'un entretien avec deux Français que sont respectivement Fabien Le Boniec, anthropologue, et Blaise Pantel, sociologue. Tous deux sont chercheurs et professeurs à l'Université catholique de Temuco. Nos deux interlocuteurs se complètent et proposent une approche historique, sociale et politique de la lutte des communautés mapuches dans un Chili contemporain qui peine à trouver une solution historique qui puisse rompre définitivement avec son passé colonial et d'État fasciste. Avec le temps, l'expression des revendications des communautés mapuches ont évolué et apportent aujourd'hui des propositions crédibles pour se distancer du passé.
Le peuple mapuche, en fait, c'est une population autochtone, originaire du cône sud d'Amérique latine. C'est une population qui vivent au Chili et en Argentine, mais plutôt principalement au Chili, où il y a une population aujourd'hui. Alors, c'est toujours difficile de faire les comptes, mais on prend une fourchette assez large, entre 600 000 et 1 500 000 personnes. Du côté argentin, les chiffres dont j'ai vu dernièrement, c'était plutôt 300 000 personnes. Alors, il y a une longue histoire de ce peuple-là, hein, qui est une histoire qu'on connaît notamment à travers les chroniques espagnoles. Et c'est l'un des rares peuples, il y en a qui disent c'est l'unique, mais j'en ai connu d'autres qui disaient qu'ils étaient les uniques aussi à avoir résisté contre l'invasion espagnole. Mais c'est vrai que les Mapuches sont connus vraiment dans l'histoire pour avoir réussi à résister à l'invasion de leur territoire, d'une part à travers la résistance guerrière, mais aussi la résistance diplomatique en faisant des traités avec les Espagnols. Avec l'indépendance du Chili, ça a été un peu plus compliqué, les relations avec les Chiliens, et ils ont eu leur territoire qui a été annexé militairement lors d'une guerre. Par euphémisme, on appelle pacification d'Araucanie. Qui a été menée à la fin du 19e siècle, en parallèle à ce qu'on appelait du côté argentin la conquête du désert, qui est aussi un euphémisme, où là aussi les Mapuches d'Argentine se sont vus annexer leur territoire et on peut le dire quoi, massacrer. Donc c'est une population qui a quand même tenu tête pendant plusieurs siècles aux Espagnols et au moins un demi-siècle aux Chiliens. L'histoire montre aussi qu'ils ont tenu tête aux Incas, ils avaient intégré certains éléments des cultures Incas, mais c'était aussi imposé. Mais c'est ce qui est intéressant justement, c'est ça, c'est dans tous ces contacts violents, c'est que finalement les Mapuches ont su se réinventer, ont su utiliser, intégrer des éléments qui venaient des autres cultures. Alors bon, il y a l'exemple que très tôt les Mapuches ont pris le cheval et l'ont utilisé pour faire la guerre contre les Espagnols. Et c'est comme ça que s'est forgée un peu cette image de la résistance Mapuche. Alors bon, aujourd'hui C'est une autre forme de résistance qu'il y a, mais c'est quand même intéressant de voir que dans les Amériques, il y a ce peuple qui est très gros connu pour cette résistance-là et qui existe encore. Être Mapuche, c'est une culture qui est encore avec une langue, le Mapusungun, avec certains rituels, des croyances. Enfin, là, il y a tout un monde complètement à part qui existe. Pour les personnes qui se sentent mapuchées, après il y a différentes modes d'existence, enfin d'être mapuché, et il y a une culture qui est encore existante jusqu'à aujourd'hui, hein. Malgré une politique d'intégration des populations mapuchées qui est passée notamment par la langue, en imposant la langue espagnole à ces populations-là, bon, sans parler du christianisme qui s'est imposé et qui s'est souvent opposé à la religion mapuchée.
Ça veut dire
Mapuche, c'est formé de deux mots, Mapu et Che. Che, ça veut dire les gens, et Mapu, c'est la terre. Donc les Mapuche sont les gens de la terre. Et un petit peu pour compléter ce que signale Fabien, cette, disons, longue histoire de résistance face aux Espagnols et aux Chiliens par la suite, a forgé aussi une culture, fait partie de l'imaginaire collectif de ce peuple. C'est très présent que, quand tu vas dans des communautés mapuches et qu'on commence à parler d'histoire, ça revient systématiquement que nous, les mapuches, on a résisté aux Espagnols, on a fait des traités avec les Espagnols, ils n'ont pas conquis notre territoire. Et ce sont les Chiliens qui au début, avaient fait, au début du 19e siècle, la jeune République chilienne avait aussi établi des traités avec des Mapuches, qu'on appelle les parlamentos, des parlements, des assemblées diplomatiques de négociation avec un texte qui établit des règles pour chaque partie. Il y a une longue histoire de lutte qui continue aujourd'hui dans des configurations différentes, mais qui nourrissent cette histoire de la résistance mapuche face à l'invasion étrangère, qu'elle soit espagnole et par la suite chilienne. Il faut aussi signaler que dans cette résistance, il y a une demande de restitution du territoire mapuche. Et en gros, quand les Espagnols, ou avant que les Espagnols arrivent sur le territoire mapuche, on évalue le territoire mapuche à 30 millions d'hectares. Puis au moment de la conquête espagnole, il y a un parlement qui établit une frontière entre la nation espagnole au nord du Biobío, et le Biobío est établi comme une frontière du territoire mapuche. C'est un fleuve qui se jette à Concepción, donc qui coupe un peu le pays et qui a été la frontière historique. Donc lorsque les Mapuches disent le Walmapu, le territoire Mapuche, c'est du Biobío, de cette rivière au sud, jusqu'à à peu près l'île de Chiloé. Et ce territoire a été reconnu pendant plusieurs siècles par les Espagnols, avec l'établissement d'un parlement, de traités. Et à ce moment-là, on parle de 10 millions d'hectares. Et lorsque l'État chilien annexe le territoire mapuche à la seconde partie du 19e siècle, à travers un plan de colonisation, bon, la pacification de l'Araucanie, ça a été aussi un plan à la fois militaire et à la fois de... Il y a eu une campagne des dirigeants politiques chiliens à cette époque-là pour faire venir des Européens, notamment des Allemands, des Italiens, des Suisses, des Français aussi, pour justement coloniser ces terres qui venaient d'être prises au Mapuche. Et à la fin du 19e siècle, c'est là où les Mapuches sont confinés dans des réserves, ce qu'on appelle aujourd'hui les communautés en fait, et on estimait à 500 000 hectares le territoire Mapuche à la fin du 19e siècle. Et à l'époque contemporaine, la politique de l'État chilien, qui a réduit les Mapuches à certaines réserves, les territoires annexés ensuite ont été soit vendus, soit donnés à des colons pour pouvoir développer l'agriculture, etc. Il y a une politique qui a favorisé l'implantation de populations étrangères au sud du pays. Et la politique de l'État chilien au XXe siècle a consisté à essayer de diviser ces communautés, c'est-à-dire de réduire le Mapuche à un simple paysan, un individu qui ne fait plus partie d'un collectif, pour essayer de terminer avec un processus d'assimilation. Et Pinochet, notamment, en 1978, il a fait un fameux décret qui permettait qu'une seule personne d'une communauté pouvait diviser la communauté. Et en fait, la division en lopins de terre individuelle.
Ouais, au niveau d'un cadastre ou de
parcelle. Exactement. Et donc, en 1990, quand se termine la dictature, qui est un processus de démocratisation du pays, on estime à 350 000 hectares ce qui reste en main des communautés mapuches. Donc les revendications de résistance et de lutte de ces 20 dernières années, justement, a consisté à réclamer ces terres qui ont été autrefois usurpées, puisque beaucoup de communautés mapuches ont été confinées dans on ne peut pas parler de territoire, dans des terrains de petite quantité qui ne permettaient pas et qui ne permettent pas aux familles mapuches de survivre, et qui a même causé une certaine paupérisation de communautés mapuches.
Du coup, le territoire a réduit, mais la population forcément augmente. Ouais. Et en revanche, ça paraît assez évident que les gens se sentent un peu à l'étroit pour
exister. En gros, on a toujours parlé plus ou moins avec les enquêtes KCN, les enquêtes de caractérisation socio-économique, de pas loin de 10% de la population chilienne qui se définit comme mapuche. Et 85% de la population autochtone est mapuche. Il faut aussi comprendre, au-delà de ces 10%, que le métissage chilien vient surtout du métissage entre espagnol et mapuche. Et donc au-delà de ce 10%, il faut voir que ici dans la région du sud, la plupart des noms de villes, Temuco, ou de rivières, sont des noms mapuches. Donc il y a réellement aussi une pénétration culturelle, un certain métissage, même s'il n'est pas reconnu par l'ensemble des... pas beaucoup de Chiliens. Il y a une présence culturelle et symbolique importante, notamment de la culture mapuche dans la culture chilienne.
Ei mimikul tuini peuma kamigui piniwan el cantun reiki mamayeja ei mi mamayeja inayuman mi panmeu seuma kanshaliwelu.
Esta libertad de un pueblo, una cultura profanada por la reconquista política absurda y goza de impunidad. Lo primordial, la economía, que solo para la minoría. No pases a llevar a nuestra propia gente que se sienten en el olvido, traicionados, marginados. De esa mierda atacando a nuestros hermanos. Pisaron esta tierra sus ancestros. Y vienen extranjeros con dinero, comprando, destruyendo. Es el dolor del pasado y del presente. Es el dolor de nuestra gente.
Mentre pucui vice algo con el deuma. Mentre pucui vice algo con el deuma. Mentre pucui vice algo con el deuma.
Mapuche resiste, insiste, persiste en tu lucha. Mucha sangre del guerrero no fue en vano derramada. Menos los frutos de tus tierras cultivadas, venerada hace siglos de tus manos, araucano en tu pasado. La libertad es uno de los cuantos no cumplidos derechos humanos. Defiende tu dignidad indígena, enfrenta al racista y su maldad. Rechaza al opresor porque toda la gente tiene el mismo color. Deforestación, muerte a la flor y fauna de la región, única y singular. Leyes de golpe militar, te quieren doblegar, apresar. Esta es tu eterna guerra de tu pueblo sin fronteras ni banderas, solo siendo los mismos hijos de la tierra.
Potrebu cui vice al cutunil deuma. Potrebu cui vice al cutunil deuma. Potrebu cui vice al cutunil deuma.
When uma puleufu, uma altura in rabu. Carifu wenu leo fuko, witu witu mi.
Bejme ufush këtu kej, një qake që jemi. Kam një tuke i të faqim apu, një lifkome u, ue nuke. Ti një lenge që trafuja, një këqokon trafuja me u. Ti le ufu maru këno u, ue numa pu le ufu, e shatu me kemi.
Alors les populations Mapuche qui sont en lutte se battent pour leur autonomie, mais les communautés sont confinées dans des sortes de réserves. Comment alors se battre concrètement pour l'autonomie? Quelles formes prennent les modes d'action et les revendications?
Les revendications ont une visibilité assez récente finalement dans cette histoire-là, et elles reposent justement sur cette autonomie qu'ont eu les Mapuches avant de se faire envahir leur territoire. Il y a 150 années, c'était un territoire qui était autonome. Et de cette histoire qui vient d'être racontée d'usurpation de terres où les Mapuches restent avec 5% des terres distribuées, il y a ce phénomène de migration urbaine qui s'est produite du fait que tout le monde ne pouvait pas rester sur des terres qui étaient extrêmement réduites. Pendant le XXe siècle, il y a eu cette lutte pour revendiquer des terres. Les paysans Mapuches occupent les terres. Les Thomas, c'était des pratiques politiques d'occupation de lieux de travail, de terres par les paysans, par les ouvriers dans les années 60-70. Et donc les Mapuches l'ont utilisé, mais en donnant leur sens à eux, on récupère ce qui nous est dû finalement. Les paysans à cette époque luttaient pour des terres en disant la terre à qui la travaille. Les Mapuches, eux faisaient les Thomas, mais en gros c'était on récupère ce qui nous est dû. On disait par exemple les Mapuches, c'est des corridas de cercos. C'est-à-dire qu'ils déplaçaient les clôtures, parce qu'en fait, beaucoup de leurs terres ont été usurpées de cette façon-là, que le voisin, le grand propriétaire à côté, déplaçait les clôtures et occupait, mangeait sur les communautés. Et donc, ils disaient, nous, on va rétablir les limites des communautés. Ce n'est que dans les années 80-90 qu'apparaît la question du territoire et de l'autonomie. Le Conseil de toutes les terres, le Consejo de todas las tierras, revendique la nation Mapuche. Alors ça se fait dans le contexte des années 90, c'est-à-dire entre guillemets retour à la démocratie, la fin de la dictature. Ça se fait aussi dans le contexte de 1992, la contre-célébration de la découverte des Amériques. Alors, dans tout ce contexte-là, c'est là qu'il y a une visibilisation de ces revendications où en effet on sort seulement de la question de la terre pour aborder la question du territoire et des droits sur ces terres-là. Alors ça se fait aussi dans un contexte où il y a une pression de plus en plus importante, d'une part, d'entreprises forestières. Le sud du Chili a été depuis presque un siècle maintenant un endroit où il y a eu beaucoup d'exploitations forestières. Il y a eu un gros développement de cette exploitation forestière sous la dictature, où la dictature a privilégié du bois à croissance rapide pour faire la pâte à papier principalement. Et donc il y a eu cette pression qui a accru dans les années 90 en territoire Mapuche. Et en parallèle à ça, il y a différents projets hydroélectriques qui ont été mis en place. C'est pour ça que finalement, à ce moment-là, les Mapuches ont pris conscience que si tu n'as pas le contrôle de la terre, on peut te mettre des entreprises forestières, avec tout ce que ça implique de contamination, d'assèchement des terres, d'érosion. On peut te mettre des barrages hydroélectriques sur tes terres sans te demander ton avis. Donc il y a une revendication de dire, voilà, on veut la terre, mais on veut un contrôle sur ces terres-là. Et on ne veut pas seulement une parcelle, on veut un territoire. On veut récupérer ce qui nous est dû. Et ce qui vient avec ça, c'est un mode d'organisation propre, parce que les Mapuche avaient un mode d'organisation traditionnel propre, social et territorial. Je pense que c'est en ça que cette lutte-là a commencé à se différencier d'autres luttes qui étaient plutôt des luttes paysannes, ou des luttes seulement sociales. Là, il y a un composant identitaire qui est assez fort. Et dans les années 90, il y a eu cette idée aussi, avec une organisation qui a été importante à un certain moment, qui est la Corniaco Mayeco, de la récupération productive. L'État chilien et les grands propriétaires ont tout de suite dit « ouais, mais on jouait sur les stéréotypes que la société chilienne avait les Mapuches » en disant « ouais, mais à quoi on va leur donner des terres s'ils les occupent, mais ils en font rien, c'est des paresseux, c'est des alcooliques ». C'est un peu l'image que la société chilienne, encore aujourd'hui, a des Mapuches. C'est un stéréotype qu'on retrouve un peu dans toutes les Amériques, hein, jusqu'en Amérique du Nord, c'est les Indiens sont pas capables, sont des paresseux et tout ça. La coordination de communautés en conflit à Arauco Mayeco a dit, nous, on va montrer qu'on récupère ces territoires et on les rend productifs. parce qu'on a des communautés qui ont des problèmes économiques. Donc on va cultiver sur cette terre-là, on va couper les arbres des entreprises forestières pour faire nos maisons, donc il y a ce nouveau concept de récupération productive. Avec l'émergence de la cornière Akoma-Yeko à la fin des années 90, 97, 98, vient d'autres modes d'action un peu plus radicaux qui sont l'incendie de camions forestiers qui passent en territoire mapuche dans les communautés. Et donc comme forme de protestation, de visibilisation de leur lutte, on met le feu aux camions forestiers. Aussi, il y a d'autres formes d'incendie de terrains forestiers. Le problème qu'il y a eu là, c'est qu'il y a eu une multiplication de ce type d'action. On s'est aperçu à un moment que toutes ces actions n'étaient pas menées par les Mapuches. Les entreprises forestières aussi, pour toucher leur assurance, mettaient ça sur le dos des dirigeants. Du coup, les dirigeants étaient emprisonnés. Alors, ça, c'est des formes, on pourrait dire aujourd'hui, classiques de mobilisation des communautés. Il y a d'autres formes aussi, enfin, les
démarches.
Oui, voilà, des marches, il y a différentes formes. Il y a aussi l'émergence d'une intellectualité mapuche qui est très importante, c'est-à-dire des historiens, des journalistes, des anthropologues mapuche qui revendiquent réécrire l'histoire et la culture mapuche à partir de leur perspective pour prendre aussi pouvoir sur les connaissances, sur les sciences, et revendiquer le territoire mapuche, revendiquer l'autonomie mapuche. Donc il y a différentes dimensions, mais je pense qu'il y a aussi une dimension de la relation avec l'État, c'est-à-dire qu'il y a des communautés qui sont entrées dans des formes de négociations aussi pour récupérer leurs terres, et que ça a marché aussi. Tout ça pour dire qu'il y a différentes formes qui, pour moi, se sont complétées, plus qu'aux s'opposer, même si pour les organisations, il y en avait qui disaient ceux qui négocient avec l'État sont des traîtres et tout ça. Mais finalement, quand on voit certains résultats, pas tous, parce qu'il y a aussi la criminalisation sur laquelle, à mon avis, on va revenir après, mais il y a quand même des communautés qui ont réussi à récupérer des terres en négociant avec l'État chilien. Alors, au prix de l'État chilien a dû payer des terres qui avaient été usurpées aux Mapuche, c'est l'État chilien qui doit payer ces terres-là aux entreprises forestières à des prix exorbitants.
Alors à un moment, il a été fait allusion à la répression à l'encontre des dirigeants. Mais qu'est-ce donc ce statut de dirigeant ?
Dirigeant, c'est vrai que c'est un terme qui regroupe différents statuts. Il y a ce qu'on appelle les leaders traditionnels, qui sont les longkos, qui sont les chefs traditionnels des communautés, disons. Ils doivent leur statut parfois de façon héréditaire, d'autres fois moins, mais ces longkos ont un rôle dans l'organisation traditionnelle des communautés, notamment lorsqu'il y a des cérémonies qui sont faites pour prendre des décisions, pour... Et ils ont aussi ils peuvent aussi avoir un rôle politique. Après, il y a des dirigeants plus contemporains, enfin, qui n'ont pas le statut de militants, mais qui ont un statut représentatif aussi du coup du fait de leur charisme, de leur capacité d'aller faire des médiations vers l'extérieur, vers l'État, vers des ONG, disons en dehors de la communauté. Après, il y a dans les fonctions traditionnelles, il y a ce qu'on appelle les werken, qui sont aussi les messagers, les porte-parole, qui peuvent aussi avoir un rôle de dirigeant, au moins médiatiquement, ou pour aller parler avec les autres communautés, par exemple. Il y a cette tentative de la part des communautés de faire ce travail, de se coordonner entre différentes communautés. Comme avant, ça se faisait. Il y avait ce travail-là. Chaque communauté est autonome, mais il y a toujours des contextes et des moments où on se réunit pour aller à l'époque des Espagnols, c'était pour aller faire la guerre ou la paix. Et donc, il y a les werken, là, jouent un rôle important pour faire la communication entre les différentes communautés et essayer de trouver pour faire des réunions ensemble, pour trouver des stratégies communes de lutte. Et on peut dire aussi que ça fait partie c'est pas des dirigeants, mais c'est des leaders spirituels, mais qui ont aussi un rôle politique. C'est ce qu'on appelle les machis, qui sont des sortes de chamans. Enfin, on a toujours du mal à savoir comment décrire, mais c'est soit des hommes, soit des femmes, plus souvent des femmes, mais il y a aussi des hommes qui ont un rôle dans les communautés. Alors pas dans toutes, parce que beaucoup de communautés n'ont plus de machis. C'est une fonction qui est donnée par la nature, disons, enfin par les forces spirituelles, mais souvent c'est qu'on vient d'une descendance de machi, et donc c'est la personne qui, lors des cérémonies, souvent, enfin ça encore une fois ça dépend des zones, mais va avoir un rôle important pour mener la cérémonie, pour avoir des présages sur ce qui va se passer, pour guérir les personnes. Enfin, il y a différentes fonctions, et donc la machi a des présages, et c'est important au niveau politique. Ça veut dire par exemple quand une communauté va aller récupérer des terres, souvent, on va faire une cérémonie avant, où la machi, dans sa transe, il peut y avoir différents types de présages que la machi peut avoir durant la cérémonie, qui guide politiquement les personnes. Pour faire la transition par rapport à la répression, il faut signaler cet élément qui est assez récent, c'est que la répression qu'il y a depuis maintenant, on va dire, une quinzaine d'années dans le sud du Chili, et qui a vu l'émergence de cette figure de prisonnier politique mapuche, a d'abord en effet touché les dirigeants, parce que c'était les figures les plus visibles. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, quand on brûle une exploitation forestière, même s'il n'y a aucun témoin, c'est simple, c'est celui qui revendique l'exploitation le coupable. Et c'est comme ça que tu as différents leaders qui ont été emprisonnés, Victor Ancalaf, des longkos traditionnels les longkos Pichoun et Norin, c'est parce qu'ils sont dirigeants, c'est les figures visibles. Et si c'est pas eux qui dénoncent les autres personnes qui l'ont fait. Et c'est comme ça qu'il y a eu des leaders traditionnels, des longkos, qui ont été condamnés à des peines de 5 à 10 ans. Après, cette répression s'est inscrite et a touché l'ensemble de la société mapuche, enfin des communautés, les militants, les membres des communautés. Et aujourd'hui, il y a eu, depuis maintenant un peu plus d'un an, il y a une répression contre les machis, comme un peu des leaders spirituels de cette lutte-là. Il y a deux cas enfin, en particulier, qui est le cas de Celestino Cordoba, qui est prisonnier à Temuco, et d'autre part de la machi Miarei Huichalaf, qui a été emprisonné pendant plusieurs mois, qui est toujours en procès là en ce moment, dans le cadre de lutte pour la terre. La répression aujourd'hui est en train de toucher l'ensemble de la société mapuche, et y compris des personnes que jusqu'à maintenant on pensait qui étaient un peu intouchables. Les machis, c'est vraiment une figure enfin sacré dans la culture mapuche, et aujourd'hui il y a des machis qui sont prisonniers politiques. J'ai du mal à tenir le compte de prisonniers politiques, mais on estime plus ou moins aujourd'hui, je pense, à une quinzaine, vingtaine de personnes qui sont dans les geôles du sud du Chili. Et ce sont des milliers de personnes qui sont passées par les prisons, qui ont été condamnées. Donc le phénomène de répression a été très important et ça a touché beaucoup de gens. Et évidemment, c'est un effet de démobilisation. Souvent, la condition, c'est de dire, bah, voilà, on te laisse en liberté, mais en échange, tu ne devras pas te rapprocher du terrain en conflit, par exemple, ou du propriétaire du terrain en conflit. Ça a été la politique de l'État chilien, la criminalisation, pour essayer d'arrêter les mobilisations territoriales des Mapuches.
Pour ce que dit Fabien, on est passé d'une vision du Mapuche feignant, alcoolique, au Mapuche violent et terroriste. Il y a une continuité de la politique chilienne qui, au retour de, voilà, pendant la transition démocratique, autour des années 91-92, quand là il y a eu notamment des occupations de terres symboliques à plusieurs endroits du territoire du sud du pays ici, alors qu'on était en pleine transition démocratique, c'est à ce moment-là que les autorités chiliennes commencent à s'interroger à utiliser la loi antiterroriste ou la loi de sécurité nationale.
Datée de Pinochet.
Oui. Et la loi antiterroriste, elle date de 84. Et c'est à la fin des années 90, avec d'une part une certaine radicalisation du mouvement Mapuche, où là, il y a une véritable stigmatisation avec la complicité des médias. À chaque fois qu'il y a des incendies dans le sud du pays, il y a la suspicion immédiate. Immédiate. Donc c'est un jugement avant l'heure de ce sont forcément des Mapuches qui ont mis le feu et qui utilisent ce genre de mobilisation. Parce qu'il faut bien comprendre que l'utilisation de cette loi antiterroriste, c'est une décision politique. C'est dans ce sens-là que, comme c'est une décision politique, le caractère de prisonnier politique Mapuche a pris aussi de la substance, puisqu'en fait il y a beaucoup de défenseurs qui travaillent sur les questions des droits de l'homme, ou d'autres défenseurs mapuches qui ont souvent répété que le droit classique chilien est suffisant pour pouvoir traiter ce genre de procès ou ce genre de délit. Et donc il y a une utilisation politique de la loi antiterroriste. Et notamment, alors, pour qu'on comprenne bien, qu'il y a une restriction des droits de la défense quand un accusé est accusé par la loi antiterroriste. Et un des éléments des plus graves et qui est condamné, c'est la possibilité d'utiliser des témoins sous X. La défense ne peut pas contre-interroger le témoin. La défense ne connaît pas quel est l'individu et ne peut pas le connaître puisqu'il est soi-disant protégé, donc il est sous X, soi-disant c'est une forme de protection. Ça a conduit à l'usage abusif de témoins sous X qui accusent tout en sachant que parfois ils sont même payés par la justice. Ils reçoivent un financement. Et donc, évidemment, il y a un manque de crédibilité de ces accusations-là. Il y a un autre élément qu'on pourrait peut-être mentionner sur cette loi antiterroriste, c'est qu'en 2010, il y a la grève de la faim de 34 prisonniers politiques Mapuche. On est au bicentenaire, en septembre, donc ce sont les festivités du bicentenaire. Donc là, on était à 60 jours à peu près de la grève de la faim. Ça a eu un impact médiatique important. Et ça a conduit, à la fin des années de 2010, en décembre, à une discussion au Parlement sur la modification de la loi antiterroriste. Et une discussion qui a été publique, qui est passée à la télévision, et qui a été intéressant de voir les positions de droite et de gauche, du centre. Est-ce que l'incendie, c'est un incendie? Est-ce qu'un incendie est forcément terroriste ou pas? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, le sud du Chili, c'est l'Eldorado. C'est la loi du grand propriétaire terrien, c'est la loi de la propriété privée. Donc il y a une défense de la propriété privée qui est même plus importante que tout le reste. Il faut comprendre que dans le mouvement de résistance mapuche, il y a eu des jeunes mapuches qui ont été assassinés, et notamment par des policiers, par des carabiniers. Jusqu'à récemment, existe toujours la prééminence des tribunaux militaires. Donc lorsqu'un carabinier tue un civil, Il est jugé par les tribunaux militaires. Lorsqu'un civil, jusqu'en 2010, était accusé d'avoir frappé un carabinier, il était jugé par les tribunaux militaires. Donc il y a beaucoup de mapuches dans la décennie des années 2000, 90-2000, qui avaient des procès aux civils pour terrorisme, pour incendie, pour vol, mais aussi par des tribunaux militaires. Blessures à carabinier, attentats contre carabinier, attentats contre l'ordre public, donc par des tribunaux militaires. Et en 2010, du fait de cette grève de la faim, de la mobilisation mapuche, alors, il y a eu une discussion sur la réforme de la loi antiterroriste. Malheureusement, cette réforme a été limitée. Un des points était de ne pas appliquer la loi antiterroriste à des mineurs. Et ce n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des mineurs qui ont été jugés, ou la procédure pendant leur jugement a été sous la loi antiterroriste. Par contre, il y a eu une réforme de la justice militaire qui fait qu'aujourd'hui, un civil qui est accusé d'avoir frappé un carabinier, aujourd'hui, toutes ces causes-là sont passées au civil. Et par contre, un carabinier qui est accusé d'avoir violé des droits civils, on va dire, il continue d'être jugé sous la justice militaire. Donc, il y a plusieurs cas de jeunes Mapuche, Alex Lemoun. En 2008, on a Matías Catrileo. Et en 2009, on a Mendoza Colillo. Qui sont trois jeunes Mapuche qui ont été tués par des carabiniers. Et où règne une impunité totale. Ce que beaucoup d'organisations et d'organismes disent, c'est pour ça que je t'amènerai sur ça, c'est qu'il y a un double standard. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des mobilisations mapuches, il y a une forte répression policière. Alors, on a parlé de l'antiterroriste. Il ne faut pas oublier qu'il y a des descentes de police dans les communautés qui font des dizaines de blessés, des personnes âgées, des jeunes. Parce que bon, il n'y a pas de numéro sur les maisons. Hein. Donc, quand il y a une descente de police, s'ils viennent armés...
Ils cherchent quelqu'un.
Il y a les mapuches... critique et mentionne qu'il y a une militarisation du territoire. Il y a beaucoup de forces spéciales qui sont dans le territoire pour protéger des terres des entreprises forestières ou protéger des terres de colons. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi une violence policière importante. Parfois, je m'en souviendrai toujours de cette marche qui a été faite dans les années 2009, je crois, où les Mapuches sont venus laisser au préfet, ce qui serait là, qui correspondrait au préfet, l'intendant d'ici. Ils ont lancé, ils avaient des sacs entiers de cartouches, hein, des cartouches de lacrymogènes ou de balles en caoutchouc qu'ils récupèrent dans la terre, et pour montrer voilà la répression à laquelle sont soumises les communautés. Et le problème, c'est que les carabiniers ici au Chili, c'est une institution plus qu'importante, c'est un peu la colonne vertébrale du pays. Et lorsque des jeunes Mapuches sont assassinés par des policiers, il n'y a pas de jugement. Par contre, quand il y a des Mapuches qui se mobilisent, il y a l'application dure d'une loi antiterroriste ou alors de tout un appareil juridique qui vise à réprimer ces mobilisations.
Thank you. callar nuestra voz, para que no se sepa la historia de nuestra nación, nos acusan de terroristas para privarnos.
On aborde les aspects de production agricole, vivrière, la lutte particulière pour conserver les semences autochtones, et on fait un petit détour sur la gastronomie mapuche comme élément d'affirmation d'une identité vivante.
Au niveau productif, c'est vrai que généralement les habitants des communautés ont des superficies de terre des fois de moins d'un hectare, maximum généralement c'est 4 hectares. En famille, c'est souvent des sols dégradés. Toutes les terres de Maïeko, par exemple, un peu plus dans le nord, où il y a des conflits, ces terres qui ont souffert de l'érosion, notamment provoquée par la présence des entreprises forestières. Ça donne lieu à une petite production, un petit élevage, qui contraste beaucoup avec ce que fut la société Mapuche avant leur annexion par l'État chilien. La société Mapuche était connue pour être une société avec beaucoup d'animaux. Et aujourd'hui, tous les agriculteurs mapuchés ne sont pas forcément des éleveurs. C'est vaches, poules, cochons, moutons. Alors ceux qui ont un peu plus d'argent, ils ont un ou deux chevaux. Ça, c'est quand même la marque, je sais pas si de richesse, mais un statut un peu plus élevé quand on arrive à avoir des chevaux dans une communauté. En effet, après, c'est de la petite production, souvent plus pour la famille que pour vendre. Ça aussi, ça se contraste beaucoup avec les grandes productions des latifundio qu'il y a à côté de ces communautés-là, où là, c'est de l'élevage intensif. Ce qui est intéressant, j'ai pas vraiment eu l'occasion, moi, de participer. Les trafkintu, par exemple, ou les échanges de graines, par exemple, qui se fait de plus en plus dans la région, qui reprend un mode traditionnel, mapuché, d'échange, où en effet on s'est changé de différentes formes de biens dans les communautés, et ça a été réactualisé avec l'échange de graines, et justement qui est une forme de lutte contre les OGM et compagnie, et qui se fait de plus en plus dans différents villages où les communautés viennent échanger comme ça leurs graines.
Ouais, il y a un réseau même qui s'appelle Semillas Libres, de graines libres, qui consolide depuis ces dernières années, justement, et qui multiplie. Il y a aussi des gardiennes, mapuche, des gardiennes de graines. Certaines mapuche qui sont reconnues, qui forment comme une sorte de banque autonome, une banque de graines, pour pouvoir justement des gardiennes de certaines graines en particulier. Donc je dirais qu'il y a un mouvement de résistance et qui lie des activités comme le tchafkintu, l'échange qui se multiplie. Moi, je connais pas mal de territoires qui ont développé ces dernières années une stratégie autour de l'identité mapuche à travers la gastronomie mapuche. Et de remettre au centre, dans un processus de lutte, alors, qui se complète avec les autres, qui est de redévelopper ou de développer ou de continuer à développer des produits locaux typiquement mapuche. Ça permet de développer une économie locale, ça permet de faire travailler les gens. Donc je vais acheter mes produits à ma voisine parce que je sais qu'elle a les pignons, je sais qu'elle a la farine. Moi je fais plutôt cuisine tel type de végétaux ou de champignons. Mais quand on va dans une communauté mapuche, on mange aussi assez bien. Il y a toujours, quand tu vas arriver chez quelqu'un, on va te servir à manger, la cuisine va commencer à fonctionner parce qu'il faut faire chauffer, parce qu'on a une visite. Donc il y a cette culture du bien manger et du bien manger. Et ce qu'on appelle aussi, qui est une thématique qui va au-delà de des Mapuches, et a lieu dans d'autres pays latino-américains, dans le son bien-vivre. Le buen vivir, le bien-vivre. Donc beaucoup de Mapuches aussi, quand ils vont au pignonnage, on peut dire, récolter des pignons, et souvent, parfois, ils vont... Il y a certaines régions de la Cordillère, ils laissent leur maison principale. On est en été, enfin, juste après l'été, au moment de la récolte, fin mars, début avril. Et donc ils partent parfois pendant un mois ou trois semaines dans une maison plus... une cabane, là. Et donc par exemple, tous les Mapuches disent, quand on va récolter le pignon, il ne faut pas prendre tout le pignon. On ne peut pas prendre tout le pignon, il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas être dans une logique capitaliste, bon, moi je vais récupérer tous les pignons qui sont ici, je ne vais en laisser aucun. Pour deux raisons. Un, il faut laisser des pignons pour les animaux de la forêt, les oiseaux, les sangliers, les qui se nourrissent. Et puis deux, il faut aussi replanter. Toute cette logique-là est liée aussi à la cosmovision mapuche du rapport à la terre, du rapport aux animaux, du rapport à l'environnement. Dans plusieurs zones, dans plusieurs territoires, il y a cette stratégie de développer une gastronomie mapuche et dans un discours d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire. Elle permet d'affirmer à la fois une identité et elle permet aussi de concrétiser ou de rendre plus palpable qu'est-ce qu'on entend par autonomie. Autonomie de produire nos propres produits, de nous les échanger entre communautés ou entre habitants du territoire. C'est pas forcément fermé, évidemment, seulement au Mapuche.
Dans ce qui va suivre, on aborde rapidement la question de la place des femmes dans la lutte des communautés mapuches. Mais bon, c'est un peu dommage que ce ne soit que des mecs qui s'expriment là-dessus.
Évidemment, les femmes mapuches ont été dans les manifestations, c'est les premières qui sont devant et c'est les premières qui se reçoivent les coups aussi. Souvent, c'est les premières dans les revendications, souvent, enfin, au moins. Dans le Caralco, par exemple, c'est des femmes mapuchées. Enfin, c'était une entreprise hydroélectrique qui s'est installée en territoire Pehuenche, dans la Cordillère, où celles qui ont résisté, c'était des femmes. Dans cette lutte-là, c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler des dirigeants, mais on parle pas trop des dirigeantes. Elles sont aussi présentes. Je sais pas si on pourrait parler de féminisme, mais c'est vrai qu'il y a quand même des groupes de femmes mapuchées qui ont essayé de se distinguer, justement, créer leur propre organisation pour réaffirmer aussi leur rôle dans cette lutte-là. Il y a des femmes qui sont prisonnières. Enfin, il y en a au moins une, c'est la Machi Miare Wichalaf qui est prisonnière, et d'autres sont passés aussi par les prisons. Et souvent, c'est lorsque la police arrive dans les communautés pour chercher les personnes et qu'il y a ce qu'on appelle les ayanamiento, des perquisitions, mais le terme est en français, perquisition est très peu...
Des centres de police,
mais vraiment dans un sens vraiment violent, et souvent c'est femmes et enfants qui sont les premières victimes de cette répression.
Je dirais que c'est vrai qu'il y a une présence... Enfin... Le peuple, les Mapuches en général, on peut dire qu'il y a quand même cette culture de la résistance, cette culture de l'opposition face à l'État, face à l'oppresseur. Ça fait partie de leur histoire. Et c'est vrai que dans les discours, ou dans les actions, dans les marches, c'est une place centrale de la femme Mapuche. D'un autre côté, il y a aussi un certain machisme de la société Mapuche. Mais il est évident que la société mapuche s'est transformée de ce qu'elle était il y a 300 ans. Et qu'il y a eu une influence de ce machisme classique des sociétés latino-américaines. Ce qui fait qu'à la maison, celle qui fait la cuisine, celle qui repasse, c'est la femme. Parce que le rôle de la femme dans la société mapuche, je te dirais qu'il est essentiel. Parce que beaucoup de luttes, ce sont des femmes mapuches qui les ont menées. Quand on a les maris qui sont en prison accusés d'antiterrorisme, qui c'est qui fait marcher la maison, qui c'est qui éduque les enfants, qui c'est qui s'occupe des terres, ce sont les femmes mapuches. Parfois, il y a une certaine invisibilité, mais d'autre part, elles sont au devant de la scène au niveau des luttes politiques.
Pour terminer cet entretien, on aborde la question du soutien dont les luttes mapuches peuvent bénéficier au Chili et plus largement.
Oui, il y a des réseaux de solidarité qui se constituent. Je pense à des groupes de diverses tendances politiques. Ça peut être plus écologiste, ou Il y a aussi des groupes plus anarchistes aussi qui trouvent aussi des points communs, si tu veux, entre la lutte mapuche et la lutte contre le système capitaliste, puisqu'il y a aussi un discours mapuche qui s'oppose au système capitaliste, puisque c'est un système de domination, un système qui d'extractivisme des ressources naturelles, alors que les mapuches veulent justement développer une économie locale, une souveraineté alimentaire, une autonomie. Donc il y a des points de lutte et qui fait qu'il y a, des réseaux de solidarité qui se constituent. J'ai envie de te dire aussi avec le monde étudiant, un peu, il y a aussi des liens qui sont établis entre le monde étudiant et la cause mapuche. Il y a à la fois une société chilienne qui a développé historiquement un racisme envers une discrimination envers les mapuches. Et d'un autre côté, il y a aussi les mapuches qui ont développé une certaine méfiance de la part de la société chilienne. Donc ces rapports d'alliance stratégique, même parfois avec des ONG qui travaillent avec par exemple des avocats, il y a eu parfois des moments très difficiles parce que d'un côté, il y a un groupe mapuche, des communautés, des organisations qui veulent, qui établissent une rupture avec le reste de la société chilienne. Et j'ai l'impression, moi, que ça s'est un peu assoupli dans les années 2000, grâce notamment avec des réseaux de solidarité, et où les Mapuches se sont rendus compte que, bon, il y a des gens qui solidarisent avec nous, des étrangers, ou des Chiliens, et puis qui commencent à s'impliquer dans les communautés, qui vont participer à des processus d'économie locale, de récupération productive de terres, qui vont s'impliquer dans des projets. Donc j'ai l'impression que ça s'est plus ouvert. Cependant, je crois que ça reste toutefois assez limité.
Non, enfin, je pense qu'il y a une sensibilité des mouvements d'extrême gauche envers les revendications mapuchées. Mais du fait que justement les mapuchés cherchent certaines formes d'autonomie, notamment autonomie politique, enfin, en termes politiques, justement, et qui se considèrent ni de gauche ni de droite, et ils ont du mal, finalement, à faire mouvement ensemble. Après, il y a quand même une initiative qui est assez intéressante, par exemple, d'un parti mapuché qui s'est constitué et qui a pris comme base une constatation claire, c'est qu'un parti qui revendique l'autonomie du pays mapuché, c'est-à-dire de la 9e, 8e, 9e et 14e région et 10e région du Chili, vont devoir prendre en compte qu'ils sont en minorité sur leur propre territoire historique. Et donc, il y a des alliances à faire avec la société chilienne. Et finalement, ce parti-là, déjà a ouvert ses portes aux personnes qui ne sont pas mapuchées. Et aussi en considérant, nous ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec les gens qui sont progressistes, peuvent être d'accord avec cette idée de créer une macro-région autonome mapuché, où tout le monde aurait le droit de vote et droit de parole, mais où on respecterait les valeurs mapuché. Donc il y a quand même différentes tentatives qui sont faites pour faire ces liens-là, mais c'est vrai que il y a une méfiance historique qui fait que c'est des fois difficile de créer ces liens-là. Le mouvement mapuché actuel, qui est autonomiste, a construit son discours contre l'État chilien d'une certaine façon. C'est une façon, c'est un peu pour détruire le mythe de l'État chilien qui serait naturellement ici et montrer qu'il y a une autre histoire justement qui est l'histoire de l'usurpation des terres, des massacres qu'il y a eu, du racisme qui perdure aujourd'hui, et cette histoire-là se fait en opposé par rapport à l'État chilien. Bah, déjà, ça serait une manière de décentraliser le Chili, parce que le Chili est un pays complètement centralisé, toutes les décisions sont prises à Santiago, et donc cette proposition du pays mapuché, faite notamment par le parti politique mapuché Huallaga Mapuwen, c'est une forme de décentralisation, de prise de pouvoir, où on demande qu'il y ait des assemblées ici qui se mettent en place, et élues démocratiquement. C'est là où il peut y avoir des alliances qui peuvent se faire entre les régionalistes et les mapuchés, par exemple.
On n'a peut-être pas pu faire le lien aussi avec d'autres types de luttes qui existent, comme au Mexique, les zapatistes. Il y a des connexions, il y a aussi des réalités politiques qui sont similaires. Et il faut bien comprendre que les luttes autochtones ont certaines particularités, notamment pour être liées à un territoire historique et avec une culture qui autre, avec sa propre cosmovision. Donc ça, c'est ce qui en fait sa particularité. Mais sur le fond, Il y a des éléments qui sont totalement en lien avec ce qui se passe dans les pays européens et qui ont à voir qu'on la lutte contre le système capitalisme sauvage et global, la lutte contre des grandes entreprises qui veulent imposer des industries au niveau des graines et des semences, la lutte pour l'autonomie, la lutte aussi pour une meilleure participation politique. Et donc ce qui se passe ici, c'est pas si loin de ce qui se passe en France, même si beaucoup de Mapuches demandent s'il y a des Mapuches en France. Il y a des liens entre les luttes qui se passent chez nous, ce qui se passe ici. Donc les Mapuches, c'est pas si loin que ça.
Mapuche, 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 Mapuche,